Salut Laurence!
Bonjour Francis, ça va bien?
Ça va bien toi?
Oui, et aujourd'hui on reçoit qui?
Christelle Gadebois. Allô Christelle!
Salut, salut
Allô,
Laurence, salut Francis!
Allô! Fait que Christelle Gadebois, tu es technicienne en santé animale, toi aussi. Yeah!
Exactement.
Puis
Un
tu travailles. Ah ouais, en clinique?
J'ai travaillé 14 ans en clinique. Dans le fond, j'ai gradué de Saint-Hyacinthe en 2007. Puis ensuite, ouais, Represent Saint-Hyacinthe.
Represent Saint-Hyacinthe, moi aussi.
Puis je me suis promenée un peu dans la région de Montréal. J'ai travaillé un petit peu en ophtalmo. Puis j'ai fait des hôpitaux, des cliniques. Puis j'ai atterri avec les assurances. Ça va faire un an maintenant.
Fait que justement, c'est toi qui nous as approché et disais, hey, j'aimerais tellement ça parler des assurances de santé pour animaux. Puis c'était dans nos plans d'en parler parce que
C'est
nous
très
sommes de.
pertinent.
C'est très
C'est super
pertinent.
pertinent, puis je pense que ça devrait être plus connu, puis on devrait plus en jaser pour que
Tellement.
l'information soit plus facilement accessible à tout le monde.
Yes.
J'ai
Fait
été plus
que.
vite que vous, là. J'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu votre show. J'étais comme, oh my God, ça va rejoindre le monde. J'ai juste envie d'en parler.
Ben,
Nice. Ouais.
merci de l'initiative. Ça nous a poussé à le faire plus vite qu'on
Que plus
l'aurait fait.
tard.
Ouais.
Fait
Donc,
que.
on a un disclaimer à faire. Donc, tu sais, à la base, puisque Christelle, tu es employée par une compagnie qui vend de l'assurance, n'est-ce pas? Donc,
Exact.
on voulait dire qu'entre autres, on n'a pas d'argent, on n'a pas. Le but, c'est pas
Ouais.
une vente de quelque chose, c'est pas une promotion, mais tu sais, nécessairement, tu travailles pour une compagnie, on va la nommer.
Oui, je travaille pour PetSecure, dans le fond, mais le but, comme on a dit, c'est vraiment juste d'en parler en général pour savoir autant comment l'introduire avec nos clients, comment nous, en tant que clients, on doit magasiner, qu'est-ce qu'on doit regarder un petit peu, puis qu'est-ce que ça couvre, là, cette affaire-là. Ça a tout en l'air bien compliqué, mais dans le fond, ce n'est pas tant que ça.
Merci. Fait que maintenant que nos pas de conflit d'intérêts ont été mis en évidence,
Ou de nos possibles apparences de.
oui, c'est ça. Fait que commençons par expliquer,
On
c'est
peut
quoi
essayer.
ça, des assurances de santé pour animaux? Je t'écoute.
De qu'est-ce?
T'écoute.
Ben, ça dépend beaucoup. Comme j'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies qui existent au Canada. Le meilleur conseil souvent qu'on donne aux clients, ça va être beaucoup d'aller en ligne pour regarder. Puis la plupart des compagnies aussi ont des petits onglets où est-ce que tu peux aller puis faire ton estimé rapidement. Parce que la plupart des choses qui fait peur aux clients, c'est oh mon Dieu, ça va me coûter 150 pièces par mois. T'sais. Oui,
Genre.
il y en a des plans où est-ce que c'est full, full, full inclus, où est-ce que ça va t'en coûter 100, 150 par mois. Mais des fois, pour aussi peu que 20, 25 $ par mois, tu peux avoir ton petit coussin pour, s'il t'arrive un accident, ben, t'as un petit 1 000 $ dans tes poches pour pouvoir sauver ton animal.
Fait que
Quand
déjà,
même.
ce n'est pas une obligation. T'sais?
Non,
Parce
c'est
que
ça.
pour les animaux, t'sais, mettons qu'on veut comparer aux humains, la carte soleil ou la
Ouais.
rabattue est obligatoire si tu n'as pas d'assurance privée ou collective, là, accessible. Donc, t'sais, pour les animaux, nécessairement, ce n'est pas obligatoire puisque ce n'est pas payé par nos taxes,
Ouais, exactement, nos impôts.
n'est-ce pas, nos impôts. Donc, les gens, ils peuvent aller, eux, s'ils veulent, aller souscrire une assurance pour leur animal, c'est ça?
Exactement. Donc, non, c'est vraiment pas obligatoire parce que, entre autres, en Amérique du Nord, il y a seulement 2 à 3 % des gens qui ont des animaux de compagnie qui détiennent des assurances.
Ah,
Donc,
ça, c'est
on voit
ouais, toute
que.
Amérique du Nord, je sais pas, on dirait qu'au Québec, culturellement, il me semble, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins que ça, là.
Ça se peut, mais c'est ça. J'ai pas un chiffre de juste le Québec. J'ai vraiment un chiffre d'Amérique du Nord, mais on a
Parfait.
des places dans le monde où est-ce que. Au Royaume-Uni, exemple, eux autres sont à 25 % et plus, là. Donc, on voit
Oh.
déjà qu'il y a un super gros gap, là. La raison pour ça, on n'est pas totalement au courant, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup, beaucoup des liens, des fois, entre jumelés, assurance maison, animaux. Fait que ça peut être attrayant. Puis surtout aussi, il y a une meilleure visibilité parce que, tu sais, quand tu vas magasiner tes assurances maison, qu'on te propose une assurance pour animaux, mais tu vas faire comme, ah, oh, c'est intéressant, puis
Ouais.
tu vas regarder, t'sais. Donc,
C'est
toi,
vrai
je me
que.
trouve où, en Ontario, il y en a quand même beaucoup. Je sais que tu n'as pas
Ouais.
les chiffres ailleurs, mais moi, on m'a dit qu'en Ontario, c'était quand même presque une norme maintenant. Fait qu'il y a quelque chose dans peut-être d'être le fait de parler anglais qui
Attends.
donne envie d'avoir des assurances.
Bien, c'est sûr que la plupart des assurances, malheureusement, ont souvent un côté francophone qui est moins représenté.
Ah, c'est vrai.
Mais il y a aussi une partie de ça, c'est parce qu'on en jase moins. Fait qu'il faut en jaser. C'est ça qu'on fait.
C'est peut-être nouveau pour nous, en fait. C'est peut-être
ben oui.
Arrivé, dire... c'est pas encore développé.
Moi, j'ai comme diplômé en 2010. Là, tu dis ça fait 14 ans que tu es dans le domaine des assurances pour animaux. Fait que moi, j'ai gradué en 2010. Puis il me semble que les assurances, j'ai réellement commencé à en entendre parler autour de 2014-2015. Fait que bien après ma diplomation, je savais que ça existait, mais vraiment là qu'on a commencé à en parler en clinique, genre remettre des trials de quelques semaines. On le faisait pas avant.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, comme toi, moi, il me semble qu'à l'école, je n'ai jamais entendu parler de ça. Puis, j'avais vraiment jamais eu de formation là-dessus ou plus d'explications. Donc, c'est vraiment par curiosité, puis parce qu'on était aussi une clinique vétérinaire où est-ce que j'ai travaillé en dernier, qui justement faisait les trials, qui avait des vétérinaires qui étaient un peu plus impliqués. Tu sais, on voit que les nouveaux vétérinaires, les nouvelles techniciennes sont un peu plus au courant, là. Donc, ça commence à émerger un peu. Mais moi, quand j'ai gradué en 2007, le client arrivait avec sa feuille de réclamation, puis je me sauvais en courant. Là,
oh non, comment remplir ça?
Oui, oh non, qu'est-ce que je marque là-dessus?
T'sais? Pour vrai, moi, je me souviens d'avoir eu ce feeling-là quand même. Ouais. La première fois que j'ai fait comme, qu'est-ce qu'on marque dans la boîte?
Moi aussi, moi, c'est quand j'ai commencé à travailler au DMV, fait qu'en 2017, que je ne sais pas pourquoi, là, il y avait de plus en plus de gens qui avaient beaucoup, beaucoup d'assurance. Je pense qu'il y a un filtre aussi, quand tu t'en vas à un centre vétérinaire de référence, oui. Ben, tu t'attends à investir des sous, mais si justement tu as des assurances santé pour animal qui te back, ben, tu n'as pas d'hésitation. Tu te dis, ben, je vais aller, c'est ça que mon animal a besoin comme soin, je vais y aller. Tu sais. Fait que j'ai commencé à apprendre parce que j'en faisais à chaque semaine pratiquement. Là.
Oui, oui. Ça devient moins stressant à la longue parce que tu comprends que ce n'est pas si compliqué que ça.
Non,
mais tu penses un peu en référence comme quand le client arrive avec ses papiers pour voyager, là, puis tu as 10 papiers, puis là, ça, c'est une crise cardiaque automatique. Là.
Oh, ouais. J'avoue que c'est pire, ça.
Ouais. Un
papier pour le voyage. Oh, my God.
Export d'animaux, là.
Oui.
Ouais, tu vois, encore, ça a changé il y a quelques années, puis là, je me sens plus à jour déjà.
Exact. Mais en tout cas, c'est ça. C'est pas si compliqué que ça, le modine de formulaire. Fait qu'il faut juste, c'est ça, démystifier ça, puis... faut en parler, il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que souvent les clients, quand ils vont venir, là je parle en étant dans une clinique vétérinaire, quand vos clients viennent vous voir, autant vétérinaire que technicien, ils vont vous écouter. Vous êtes la première personne souvent qui vont venir voir, la première personne professionnelle avec leur petit papy, leur petit chaton. Fait que si vous, vous n'en parlez pas, là, ils ne sauront pas que ça existe. Il y a encore plein de gens qui ne savent pas que ça existe. Puis par en parler, je ne veux pas dire voici combien ça va vous coûter. C'est vraiment juste. Les assurances existent. Allez regarder en ligne. C'est super intéressant de souscrire maintenant quand votre animal est jeune et en santé. Comme ça, ça va être bénéfique tout le long de la vie de votre animal. Tu sais.
Ouais. Il y a quelque chose qui est important de dire aussi, là, pour ceux qui ne sont pas au courant, les vétérinaires, les techniciens, les établissements vétérinaires n'ont pas le droit de faire eux-mêmes une assurance, puis de l'offrir, puis d'avoir une cote dessus. Donc, c'est très, très indépendant des établissements vétérinaires. Donc, quand l'établissement remet un pamphlet ou dit « Pensez-y, vous avez un beau bernois. Pensez-y, vous avez un bon allemand.
Pensez-y vraiment, là.
Pensez-y fort, là, OK? Mais, tu sais, il n'y a pas de... pour eux, ça ne change pas ce qu'ils sont payés à la fin du mois. La seule chose que ça peut alléger, je pense, pour le domaine vétérinaire, c'est que on se retrouve moins devant des choix déchirants.
Oui.
Quand il arrive un imprévu.
Pour moi, là, une assurance de santé animale, quand le client en a une pour son animal, ça évite les situations terribles où l'animal va vraiment pas bien, puis justement, tu as un budget limité. Puis là, pour le soigner, parce que la médecine, c'est compliqué. Des fois, c'est super facile. Tu fais comme, gars, j'avais juste à lui donner tel médicament, puis le problème était résolu. Il fallait juste comme je le tente à tel endroit sur son corps. Mais des fois, c'est, il faut prendre des prises de sang parce qu'on ne sait pas pourquoi il vomit, puis qu'il a la diarrhée depuis un an, puis pourquoi il est déshydraté. Fait que là, il faut aller faire des radiographies, échographies. Oh, je sens une masse, mais je ne sais pas c'est quoi. Il faut faire une biopsie. Puis là, ça commence à s'accumuler, puis ça coûte cher, puis ça coûte cher. En médecine humaine, on ne se poserait même pas de questions. On ferait tout ça parce qu'encore une fois, carte soleil, on a des assurances. En médecine vétérinaire, quand on a enfin l'opportunité de pouvoir faire tous les tests puis d'utiliser toutes nos compétences, parce qu'on s'entend, les vétérinaires puis les techniciens en santé animale, ils ont étudié pour faire de la médecine de qualité puis prodiguer des soins de qualité. Puis des fois, on n'a pas l'occasion d'utiliser toutes nos compétences parce que, ça coûte trop cher. Non, je ne ferai pas les radiographies. Non, je ne ferai pas l'échographie. Fait que on s'arrête à faire, on va prescrire des médicaments, inflammatoires, antibiotiques, puis on voit ce que ça va donner. Puis...
Exact.
Je pense que ça amène, tu sais, un peu ce que tu dis, l'espèce de incompréhension face à notre domaine en général sur les coûts reliés à ça.
Ouais, c'est
parce
vrai.
Que, on a la carte soleil, puis on a l'impression que c'est gratuit, parce que ça ne sort pas directement de nos poches maintenant, mais c'est payé par nos impôts, c'est payé par plein de choses, notre système de santé public. Tandis que les animaux, on se dit, mon Dieu, ça ne devrait pas coûter cher. Je veux dire, je vais prendre une prise de sang à l'hôpital, ça ne me coûte rien.
Fait que c'est de ce genre de réflexion-là, je pense, que viennent aussi des trucs comme, on sait bien, vétérinaires, c'est à l'argent, ils font tout ça pour l'argent, ils font pas ça parce qu'ils aiment les animaux, hein, c'est juste des avares, mais ils se rendent pas compte que la machine à radiographie, elle coûte comme 110 000 piastres, tu sais.
Oui, puis que l'électricité dans la building, puis le pied carré de parking, puis la machine qu'il faut, comme, tu sais, il y a vraiment beaucoup de coûts afférents à ça, tandis que en médecine humaine, ben,
on le voit pas, c'est un côté... C'est pas caché, mais c'est quelque chose qu'on réalise pas nécessairement. Parce que vous avez raison que, tu sais, quand ton animal va pas, ton chat vomit depuis 3-4 jours, il mange pas. Puis là, le vétérinaire, la technicienne arrive avec l'estimé. Puis, tu sais, c'est un bilan sanguin, des radios, 2-3 jours d'hospitalisation. Puis là, tu vois ta facture qui est à 2500. Là, tu fais comme...
Hey, ça monte
c'est pas
vite,
tout le monde qui peut, tu sais. Ben, malheureusement, c'est pas tous les établissements qui vont faire, ben oui, c'est correct, tu peux payer tant par mois.
Oui, c'est vrai.
C'est pas tout le monde qui est capable de mettre 2500 sur sa carte de crédit. Donc là, tu te retrouves devant un choix où c'est pas que tu veux pas, là. La plupart des gens voudraient le faire, puis s'investiraient, puis ils dormiraient pas la nuit, puis ils feraient tous les traitements pour leur chat ou leur chien, là, s'ils pourraient, mais ils n'ont pas les sous. Parce que souvent aussi, ça va arriver dans un moment où est-ce que tu t'en doutes pas, là. C'est pas tout le monde qui a un petit backup comme ça. Fait que les assurances, c'est à ça qu'ils servent, c'est à pouvoir réduire un peu le nombre d'euthanasies, puis t'aider à prodiguer les soins à ton animal, même si t'es dans un creux financier, ou même si t'es juste après Noël, puis t'as tout dépensé tes sous pour tes cadeaux de Noël, ben t'as toujours ta petite assurance s'il arrive quelque chose, là.
Puis t'es pas obligé de faire des choix déchirants. Tu sais, moi, j'ai travaillé en oncologie principalement, puis j'ai déjà eu une cliente qui me disait « Je vais vendre ma voiture. » Puis j'étais comme « Mais non, madame, je ne voulais pas vendre votre voiture. » Tu sais, ça je vais vous aider à faire un choix éclairé, là. Je ne peux pas vous empêcher de faire quelque chose, mais je ne vous recommande pas ça, là, aussi dur que ça peut être, aussi mal que ça peut faire, de faire ce choix-là. Fais pas ça, là.
Ouais. Tu sais, j'avais tendance à comparer les assurances pour santé animaux comme des assurances pour les voitures, dans le sens où on peut les magasiner, puis il faut le faire, c'est important, parce qu'il faut savoir c'est quoi, mettons, qui te reviendrait le moins cher pour tes habitudes, pour ta voiture, pour ton modèle, parce que ça se calcule un peu de même, mais c'est détaché, c'est un objet, la voiture, tu sais, tu l'aimes pas d'amour, puis quand tu vas avoir un accident, ça ne va pas être si déchirant que ça, je la mets à scrap, je m'en prends un autre, ou je la répare, tu sais, si tu n'as pas, cet attachement-là comme toi avec ton animal qui est un membre de ta famille, fait que, je veux dire, ça met encore plus de valeur sur les assurances de santé animale, parce que tu ne veux pas vivre cette terrible situation où est-ce que tu fais, bon, choisis quoi, tu sais, manger à la fin du mois ou sauver la vie de mon animal. Là. C'est vraiment horrible.
Fait qu'ils sont là pour ça. Puis, tu sais, quand tu as dit un peu aussi du fait de magasiner, tu sais, il faut comprendre aussi que c'est pas aussi clair que, mettons, avec une assurance maison ou une assurance auto, qu'on va toujours couvrir la même chose. Tu sais, toutes les compagnies, il y en a qui vont couvrir à 70, 80, 90 % la facture. Il y en a que ça va être juste pour les accidents, d'autres que ça va être accident-maladie. Il y en a même qui vont couvrir jusqu'à la médecine préventive. Donc, tu sais, le bilan sanguin de routine annuel, les tests
d'identiterie.
D'identiterie, exactement. Ça, beaucoup, de plus en plus, il y a des emphases là-dessus parce que on sait que c'est quelque chose qu'on recommande, on sait que c'est quelque chose qu'on veut que les animaux aient accès parce que c'est tellement important pour la santé générale. Fait que, oui, c'est ça, c'est tout ça. Là. Des fois, oui, il y en a peut-être une qui va être moins chère, mais si tu as juste pour les accidents, bien,
t'aider juste pour les accidents.
Ben, c'est ça.
Puis déjà, tu sais, c'est sûr que vous aussi, vous n'avez vu en clinique, là, mais quand j'étais à l'urgence aussi, Caroline, ça fait instantanément la différence entre l'euthanasie puis les soins.
Exact. Ouais. Ben oui.
Quand ça arrive en crash, puis que l'animal est en train, je ne sais pas, de convulser ou qu'il s'est frappé par une voiture, ça fait instantanément le choix dans la tête du client, tandis que sinon, on peut passer des longues minutes à savoir, ben, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que, tu sais, puis sous le choc, puis l'émotion, c'est des décisions atroces là, à faire, là.
Ça fait la différence entre « faites tout », puis « that's it », là, tu pars avec l'animal, puis tu sais ce que tu as à faire, tu utilises tes compétences, puis versus « ah, faut que j'appelle maman, faut que j'appelle mon ami, voir s'il peut me passer des sous », puis « oh mon Dieu, ces minutes-là précieuses, l'animal, il est bleu, là, c'est pas le moment. »
Toi, t'es là à côté, puis t'attends, puis tu voudrais donc le sauver, puis faire tes traitements, puis mettre son cathéter, là, super vite, puis là, il faut t'attendre, parce que là, le client, il faut qu'il trouve les sous. C'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il a pas les sous, tu sais.
Ou encore, je pense que ça montre le fait que on passe souvent pour des méchants parce qu'on attend pour le faire, puis mais sinon, ça économiquement, ça draine l'institution. Tu sais, quand on fait des choses, faire des choses gratuitement, là, ça devrait pas être appelé gratuitement. Ça devrait être on vous paye.
Ouais.
On vous paye la prise de sang ou on vous paye le cathéter, on vous paye ça. Donc, tu sais, il y a des frais immenses à faire des choses. C'est sûr qu'en attendant que quelqu'un appelle, souvent, on va les maintenir. C'est pas vrai. Trouve quelque chose là, parce que là, le bill est en train de monter. On fait plein de choses pour qu'il puisse comme attendre ta décision. Là,
en même temps, on le fait tout un peu. Est-ce qu'on devrait? Exactement. Oui et non, parce qu'on n'a pas le choix, on a le cœur, on le voit là, t'es comme je peux pas rien faire, mais comme tu dis, c'est des sous qu'on donne. Là.
Ouais.
On veut attendre que le client prenne la décision. Là. Mais oui, avec les assurances, ça fait comme oui, let's go, allez-y, faites tout. T'sais.
Puis si ça peut rajouter encore plus comme de drame psychologique dans la situation, là, je ne sais pas si, en tout cas, nos auditeurs le savent, là, ceux qui ne sont pas dans le domaine, mais le milieu vétérinaire, c'est le milieu professionnel avec le plus haut taux de suicide, toutes professions confondues. C'est pas juste au Québec. Là, puis mon point est le suivant. Imaginez la situation, c'est des humains, on est tous des humains, puis ils ont décidé quand ils étaient petits, moi, je veux sauver des chats et des chiens. Moi, je veux comme perdre 5 ans de mon temps à travailler comme une malade, à apprendre tout le système comme physiologique de plein d'espèces différentes, d'apprendre toutes les maladies du monde, d'être un encyclopédie sur deux pattes, à étudier, à avoir des notes super malades, à scraper ma vie sociale et mon sommeil pendant 5 ans d'université parce que je veux me faire de l'argent. Ça n'a aucun sens. C'est parce que je veux les sauver, les animaux. Fait que là, quand tu arrives dans le milieu, la réalité qui pourrait, à mon avis, être une des explications de pourquoi c'est aussi comme dépressif, là, le milieu vétérinaire, c'est ce genre de situation dramatique qui est beaucoup trop fréquente. Je veux le sauver, je sais que je peux le sauver, mais j'en ai pas l'occasion ou on m'enlève l'occasion à cause que ça coûte cher. Puis après, ben, on peut en rajouter sur la personne, le client qui est bouleversé, qui justement, sous le coup de l'émotion, on peut dire « Ah, c'est tout de ta faute vétérinaire, tu ne veux pas m'aider, tu me charges trop cher, tu es un voleur. » Fait que tu es bien intentionné, mais on t'accuse de ne pas l'être. Puis tout est une question d'argent au bout du compte parce que si on enlevait cette contrainte-là, genre avec des assurances de santé, je suis sûr que ça aurait un bénéfice pour le bien-être de l'animal, mais le bien-être psychologique du professionnel aussi. Puis le bien-être de la relation entre le client et le professionnel.
Tout à fait. Puis je pense que moi, je vais glisser là, sur ce que tu as dit, Francis, mais... Ouais. Je pense qu'en général, les conditions de travail de notre industrie sont mal connues.
C'est vrai.
Le stress, ces choses-là, mais aussi les salaires. Tout le monde a l'impression. Puis moi, j'ai déjà assisté à des conversations entre un médecin humain puis un médecin vétérinaire. Puis le médecin humain se plaignait comme dans « c'est bien trop cher, ça n'a pas d'allure ». Puis le médecin-là, c'est un radiologiste. Ouais. Puis... Et là, le médecin pour dire « OK, à go, on se dit notre salaire, là, puis on voit c'est quoi le gag, OK? » C'est parce qu'un radiologiste humain, c'est comme entre 500 000 puis 1 million par année environ de salaire. Un vétérinaire de famille, là, de clinique, en diplôme, ça ressemble pas à ça, pas en tout, là. Je pense que, tu sais, il y a une couple d'années, on parlait de 75 à 80 000 par année. Ouais. Ça en fait
le salaire d'un enseignant, c'est 40 $ de l'heure à peu près en sortant, là.
C'est quand même un gros gap, là.
C'est un immense gap. Pour 5 ans d'université, bon, on s'entend, le spécialiste, il a fait une résidence de plus, là, mais pareil,
tu sais. Mais même un résident...
Même un résident radiologue, là.
Un radiologiste comme vétérinaire, c'est pas la même game.
Non, je ne crois pas.
Puis tu sais, c'est fou, je pense que les résidents, ceux qui sont en médecine humaine puis qui font leur résidence, mettons, ils gagnent plus cher qu'un vétérinaire diplômé, tu sais.
Ouais.
peindre, c'est des humains, on est d'accord, tatata. Mais après ça, je pense que ça défait l'espèce d'idée que si que les vétérinaires ou les techniciens veulent faire de l'argent. Si on voulait faire de l'argent, personnellement, ça serait
soigner les humains.
d'aller faire infirmière, je gagnerais le double de mon salaire.
Exactement, là. Ouais, mais on n'a pas
envie de soigner les humains,
nous autres. On veut soigner des petites boules de poils, là.
C'est ça.
Exactement.
Ce que tu as dit, moi, ce qui a résonné vraiment, puis ce que je vois, c'est la paix d'esprit. Puis c'est vraiment comme pour tout le monde, là. Pour le vétérinaire, pour le technicien, pour la réceptionniste qui va avoir besoin d'aller porter la facture en avant puis d'annoncer le montant au client, pour le client qui va recevoir son estimé puis qui est stressé dans la salle en attendant pour savoir combien ça va coûter. Ouais. Tu sais, ça met tellement de la légèreté dans tout ça parce que le budget devient secondaire et puis on peut tout de suite se focusser sur les soins de l'animal. Ouais. Puis le vétérinaire et la technicienne, comme tu as dit, peuvent enfin pratiquer la meilleure médecine, peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire, peuvent faire ça pour quoi ils ont étudié sans avoir la contrainte budgétaire. Fait que ça change beaucoup, là.
Ouais, vraiment. Moi, j'ai des excellents souvenirs où justement, tu sais, un bousier bernois, là, tu sais, qui a comme la maladie super rare, là, il fait de la lymphangiectasie il y a 2 ans. Pourquoi, tu sais? Besoin de transfus, pourquoi, tu sais? Bref, puis il y avait eu la brillantité de l'assurer quand il était jeune et il y a eu les meilleurs soins du monde. T'sais, à chaque fois qu'il rentrait, c'est comme bon, il est dû pour son bilan sanguin à nouveau. Puis tu sais, on facturait puis on faisait comme tabarnouche, une chance que tu as des assurances. Puis on fait comme écoute, j'aurais jamais fait ça si j'avais pas eu d'assurance. Puis tu sais, on écoute, c'était le fun. Puis ce chien-là, il va mieux, il va bien, il est encore vivant. Puis c'est, on l'a vu tellement souvent. Écoute, c'est un membre de la famille, là, il nous adore, même si on a fait plein de piqûres sur lui. T'sais. Écoute, ça fait de la belle médecine pour tout le monde.
Exact. Tous les suivis, puis tout ça, souvent, les clients, ils reviennent pas à cause que, tu sais, pas parce qu'ils nous écoutent pas, qu'ils veulent pas, c'est que, à la longue, oui, les suivis, ça revient cher. Là, c'est le meilleur exemple que tu as donné, là. Tous les suivis, tu peux suivre ton cas du début à la fin, puis le voir à la fin que ça va mieux, là. C'est fou, là.
Tu sais, moi, ce qui vient de me popper dans la tête, Francis, c'est qu'il faut le faire jeune. Parce que le nombre de fois que j'ai vu, malheureusement, là, des gens nous dire, OK, il y a eu le diagnostic, mais est-ce que vous pouvez changer la date de son diagnostic parce que là, je vais souscrire une assurance à la fin. Puis, alors,
c'est ça, on n'a pas le droit de mentir dans un dossier, madame. C'est tellement comme le point majeur qu'est-ce que tu viens de dire. Là. Juste pour expliquer en gros, là, parce que des fois, c'est pas clair, là, mais toute compagnie d'assurance confondue, dans le fond, tout ce qui va être préexistant. Donc, tout ce qui a été diagnostiqué avant que le client prenne une assurance ne sera pas couvert.
Ouais.
Donc, si tu as un animal de 8 ans puis qu'il y a déjà des problèmes de peau, des problèmes d'arthrite puis des problèmes de glaucome, ben peut-être que c'est pas la meilleure idée d'aller prendre des assurances.
Ouais.
Mais si tu avais pris tes assurances quand ton chien il avait 8 semaines à son premier vaccin puis qu'il allait super bien, ben là, tu aurais pu réclamer pour son glaucome, son arthrite puis tout ça, tu sais. Fait que oui, souvent, les premiers mois, tu vas payer dans le vide, si on veut, parce que tu vas pas réclamer. Mais quand ton animal va être vieillissant, ben là, tu vas réclamer à tous les mois puis tu vas rentrer dans ton argent.
Oui. Il faut le voir un peu comme si la personne n'avait pas d'assurance, mais qu'elle avait comme le budget prévu, tu sais, je mets 20 $, je mets 40 $ par mois de côté. Tout d'un coup, mon animal ne va pas bien. Si on le fait une fois par mois, quand il va commencer à tomber plus malade vers l'âge de 8, 9, 10 ans, tu en aurais un coussin financier. Fait que, t'sais, les assurances, même si tu payes au début, l'avantage avec les assurances, c'est que s'il tombe malade le deuxième mois, tu as déjà ton coussin complet qui est là.
Exactement,
encore.
C'est ça que j'allais dire. Si tu as un hit by car ou quelque chose, là, quand il y a 3 mois ton animal, ben, tu n'auras pas beaucoup de coussin financier de côté, malheureusement.
Puis il faut le dire, il va tomber malade. T'sais, les personnes qui disent « je suis jamais allé chez le vétérinaire », c'est parce que la fois qu'il filait pas, t'es juste pas allé, puis il s'est remis par lui-même. Mais tu sais, il a peut-être passé 2 semaines de marde aussi, là, quand il était malade.
Moi, il y a ma phrase bien connue qui s'appelle « On meurt pas en santé ».
Non, ouais.
Donc, sauf si on
se rend compte. Il est mort de vieillesse, il est mort de vieillesse.
Ça existe, comme ou il est mort dans son sommeil, je suis comme « peut-être que toi, il dormait ».
Oui, peut-être ça. Puis son 8 heures, il était agonisant pas mal.
Exact. Ouais.
Mais tu sais, dans le fond, les assurances pour animaux par rapport au tout ce qui va être exclu, c'est comme les assurances de vie. Tu sais, la personne qui dit je vais prendre une assurance vie, je suis cardiaque. Et c'est sûr que si tu meurs d'une crise cardiaque, tu vas pas toucher ton assurance. Là.
Non, ben, c'est ça. Je pense que c'est quasiment encore plus piqué pour les animaux. Là. Ouais. Souvent, on va demander, quand c'est des animaux plus vieillissants, on va demander un bilan sanguin urinaire complet aussi. Okay. Okay. Ça aussi, je suis pas mal sûre que c'est toute compagnie confondue, mais tu sais, on parle des animaux comme de 10 ans et plus, là.
Okay, ouais.
Quand ils sont jeunes et en santé, là. Ça c'est la phrase, je pense, la plus importante du podcast. Prenez vos assurances quand vos animaux sont jeunes et en santé. Et de là, l'importance, nous, quand on travaille en clinique, d'en parler dès la première fois qu'on voit les animaux, là. Faut pas attendre.
Puis, je dirais même, il y a de plus en plus d'éleveurs qui viennent faire, tu sais, les premiers examens, premiers vaccins chez le vétérinaire, qu'ils ont déjà, ils mettent l'animal sur une assurance, que ce soit un petit trial de quelques semaines, mais tout de suite en partant, leurs animaux, ils partent puis ils ont une assurance. Ça, là, si les éleveurs qui nous écoutent, vous n'avez pas pensé à ça, c'est une maudite bonne idée.
Mais informe-moi, dans le sens, l'assurance, après ça, elle peut se transférer à quelqu'un d'autre? Comme elle suit le chien ou elle suit le client?
Non, ben, elle va suivre le client une fois qu'il est adopté, mais souvent, ces essais-là, c'est quelques semaines, donc 5-6 semaines. Puis ça va être un montant assez minime, là, je dirais de 500 à 1000 $ Mais souvent, c'est que l'animal va venir quand même avec ça s'il arrive quelque chose. Puis quand l'éleveur va laisser partir son animal, ben le client va y réfléchir encore plus parce que là, il dit, mon animal est déjà assuré, est-ce que je veux continuer ou pas? Il va aller faire des recherches. Dans le fond, tu sais, le but de tout ça, c'est tout le temps de comme semer une petite graine pour que le client, par la suite, soit curieux, aille voir, fasse des recherches parce que aussi, tu sais, quand on parle de prendre une assurance puis de jamais l'arrêter jusqu'à la mort de notre animal, bien, on veut pas prendre ça en 3 secondes sans regarder puis magasiner, tu sais. C'est quand même une grosse décision. Fait que c'est pour ça que souvent, les essais, c'est 5-6 semaines. Puis ce temps-là, on essaye de le donner aux clients pour qu'ils prennent la meilleure décision puis qu'ils fassent des recherches.
Ouais. J'aime bien ce genre de plan-là. Puis justement, pour sensibiliser les gens, faire une genre de publicité, une genre de « ça existe », j'aurais pas pensé autrement. Mais tu sais, si avant même l'adoption ou à l'adoption, tu as l'information en tant qu'adoptant, « hey, ça existe », ben voilà, ça, je pense que c'est un beau point de départ.
Moi, je pense que c'est même un bon point pour non seulement l'animal, d'en parler tout de suite et tout, mais je pense que c'est peut-être aussi une porte pour les gens de notre domaine d'expliquer les frais, comment ça fonctionne, pourquoi ça coûte des sous, puis démystifier un petit peu ça, parce que je pense que plus on a une espèce de transparence avec nos clients, puis il y a une meilleure compréhension, de dire, ben tu sais, la machine à test de sang, là, on l'envoie au test de référence, mais cette machine-là est très, très similaire à celle utilisée en humaine. Donc, elle coûte X milliers de dollars. Donc, c'est pour ça que les tests coûtent ça. C'est juste que là, c'est pas tes taxes qui payent la machine. Ça, donc, tu sais, de pouvoir en parler, peut-être, va rendre ça moins mystérieux, puis descendre un peu l'appréhension que certains ont face à... Ils vont encore essayer de me passer des tests.
Ouais, ils vont me pousser des tests.
On a autre chose à faire qu'essayer des tests pour le fun.
Ouais, on a vraiment d'autres choses à faire. Hein.
Mais surtout ces temps-ci, hein? On a de la misère à répondre aux clients, Caroline.
Exact.
Mais moi, j'ai des questions.
Oui.
Question pour toi, Christelle.
Vas-y.
Est-ce qu'il y a une discrimination à propos des races? Comme est-ce des races qui coûtent plus cher? Est-ce que c'est quelque chose qui est demandé? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être prouvé? Parce que, tu sais, une race, des fois, il faut que ça se prouve.
Encore une fois, ça dépend des compagnies. Si je parle pour Petticoeur, on ne fait pas de discrimination dans le sens que peu importe l'âge ou la race de ton animal, il peut être assuré. Par contre, oui, ça va changer le montant mensuel parce que c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'un petit French Bulldog qui est comme un citron en naissant va réclamer plus qu'un petit bichon. Donc, ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, la police mensuelle va être un peu plus élevée. Mais, tu sais, comme j'ai dit, il n'y a pas de limite d'âge. Puis, tu peux quand même assurer toutes les races, là.
Mais c'est normal. En fait, ça m'aurait étonné que tu me dises non, tout le même prix pour tout le monde parce que je pense que c'est au propriétaire, au gardien de l'animal de faire une recherche sur...
Dans quoi il s'embarque.
Dans quoi il s'embarque, là, parce qu'on niaise avec Bouvier-Bernois depuis tout à l'heure, mais c'est berger allemand et autres, c'est important d'aller fouiller ces choses-là parce que de façon héréditaire et génétique, ils ont certains problèmes qui sont surreprésentés. Tu sais.
C'est la classique dysplasie de la hanche, là. C'est pas une joke, là.
Non, c'est juste pas un gag. Puis le Bouvier-Bernois, il y a le cancer du Bouvier-Bernois. Tu sais. Dans le sens, il faut savoir dans quoi on s'embarque parce que c'est comme acheter, je m'excuse pour le comparatif, mais un char de luxe.
Ouais.
Puis là, de dire, mon Dieu, ça coûte bien cher faire traiter ma Vaux, là, il faut que j'aille dans un magasin qui fait juste des Vaux. Oui,
parce que les pièces de Vaux, il y a juste les Vaux qui ont ouais, ces pièces-là.
C'est ça, cette affaire-là. Mais je pense que c'est la même chose avec certaines races qui sont plus à problème. Là.
C'est un facteur de risque qui est plus élevé. Donc, oui, naturellement, leur police mensuelle va être plus élevée. Mais on sait qu'ils vont l'utiliser un peu plus puis qu'ils vont réclamer plus souvent aussi.
Oui, c'est ça, ils vont rentrer dans leur argent.
Ouais, et voilà.
On va demander aussi, est-ce qu'on demande une preuve? Bien, tu sais, on ne demande pas une preuve génétique de voici mon animal et ça. Par contre, tu sais, quand on va souscrire à une police d'assurance, comment ça fonctionne? C'est que le client va aller soit en ligne ou il va appeler, il va souscrire à sa police. Puis par la suite, l'équipe qui va faire « oui, ça c'est inclus, ça c'est exclu », il y a besoin du dossier médical. Donc, on va contacter la clinique pour avoir le dossier médical, pour garder tout l'historique. Puis à ce moment-là, on va comparer là, qu'est-ce qu'il nous a dit. Si lui, il a dit que c'est un chihuahua, puis on voit que c'est un bichon maltais ou whatever, tu sais, ben là, on va voir qu'il y a quelque chose qui clash, qui ne fonctionne pas. Puis de toute façon, on s'entend que le vétérinaire n'a pas le droit de mentir dans son dossier médical. Exact. Donc, on fait confiance à ça.
Ouais. D'ailleurs, les éleveurs là, qui disent notez pas que mon chien il est légèrement prognate dans le dossier pour les assurances, je vais le faire pareil, OK?
Il faut
être honnête. Si ouais. C'est comme ça, hein? Tu avais juste à choisir tes reproducteurs pour que tu ne sois pas prognate, tes bébés, tu sais.
C'est ça.
Et là là.
Il doit y avoir beaucoup, tu sais, pour moi jadis, là, en petite clinique, là, quand on me disait c'est un labradoodle, pas tant de choses, puis là, moi, je disais mixed breed. dans le dossier. Donc, pas simplement que l'assureur, lui, il se fait dire vraiment par le client, moi, mon chien, c'est un peu race labradoodle. Puis il fait comme, ouais, sûrement. Puis, ce qui n'est pas de race qui s'appelle labradoodle, en général. Dans le dossier, il va être marqué croisé.
Ou un puggle.
Un schnoodle. J'ai entendu schnoodle récemment. Oui, un schnauzer poodle.
Mixed breed, c'est parfait à ce moment-là.
Okay, parfait. Puis est-ce que vous avez, moi là, je serais vraiment curieuse d'avoir accès à vos banques de données en général dans les assureurs pour faire des stats sur les noms des animaux qui ont le plus de problèmes. Moi, je suis persuadée que si tu appelles ton chien Lucky, tu cours après.
Tu vas être bad Lucky.
Aïe, j'aime pas te frapper par un char.
Non, j'ai pas de stats là-dessus, mais. On en voit effectivement beaucoup des Lucky, mais comme tu dis, ça doit être parce que c'est très, très populaire, hein? Fait qu'il revient plus souvent.
Comme Maggie ou César pour les Westies, là. Parce qu'il y a eu l'annonce.
Pour les saucisses.
Oui. Mm-hmm. Sinon, c'est quoi je voulais dire? Ah oui, récemment, il y a vraiment quelques mois à peine, il y a un papier, une étude qui a été publiée, gros échantillon statistique de quelque chose comme 50 000 chiens de race qui avaient été comme étudiés. C'était justement grâce aux banques de données des assurances pour animaux.
Ça passait, c'était fou.
C'était super intéressant parce que dans le fond, c'était, en tout cas du moins pour ces compagnies-là, eux, il y avait des tests d'ADN qui avaient été faits pour identifier les races des chiens couverts par leurs assurances. Fait que ça pouvait permettre de corréler la le taux de consanguinité, la race, et les problèmes de santé. Fait qu'avec 50-quelques mille échantillons, OK, des études avec plusieurs milliers d'animaux, déjà, c'est extrêmement rare.
En effet.
D'habitude, c'est comme 20 puis 50 chiens.
Genre. 150 quand t'es chanceux.
Puis quand c'est des chats, c'est 18 ou 10.
Oui.
Parce que maudits chats sont tough à gérer.
Oh.
Puis ça disait justement que, ben, je veux dire, on le sait déjà en médecine vétérinaire que certaines races ont des problèmes de santé. Tu sais, t'as donné l'exemple, Laurence, là, que comme tel cancer pour le bouvier bernois, ben, t'sais, c'est comme, je sais pas moi, le Doberman, il y a lui ses paramètres pour évaluer les cardiomyopathies dilatées. Parce que toutes les autres races, ils ont comme des facteurs généraux, mais quand c'est un Doberman, mais lui, il y a des chiffres différents parce que lui, il est plus à risque.
C'est problème de coag.
De coagulation.
Problème,
c'est juste ridicule. Ou les gènes des collés, t'sais, le MR1 qui réagit bien à la mectine et d'autres affaires. Fait que, t'sais, on le sait que les races, ils ont des problèmes de santé prédisposés, puis naturellement, c'est dans la sélection des reproducteurs qu'on va être capable d'éliminer ça ou de les identifier puis de les prévenir, blablabla. Ben, avec des informations que les compagnies d'assurance collectent avec des grandes échelles, ça peut permettre, entre autres, je pense, dans un futur utopique, dans mes petits rêves avec des arc-en-ciel, des farfadets, de peut-être faire des chiens dans meilleure santé tout court, que des éleveurs soient capables de faire de meilleurs choix ou de sensibiliser les gens, les acheteurs, à mettre une pression à ces éleveurs d'exiger d'avoir des chiens de meilleure santé, tu sais.
Mais ça a un apport nécessairement à la médecine, je pense, d'avoir des données comme ça. Écoute, peut-être que, tu sais, il y avait eu une étude sur les chiens puis leur type de nourriture. Je ne sais pas si ça vient des
assurances non, aussi.
Des assurances, je ne pourrais pas dire, mais tu sais, que finalement, en faisant des gros échantillons comme ça, on se rend compte que, oups, tu sais, le point commun de toutes ces cardiomyopathies, c'est la nourriture sans grains. Ou, t'sais,
oui, oui, oui. Je m'en souviens, celle-là.
C'est ça que ça reste aussi des données. Tu sais, c'est protégé autant que les vraies assurances. Là. Les données sont toutes confidentielles. Là. Ça, c'est important de le dire aussi. Oui. C'est même quand on parle directement avec les cliniques vétérinaires, moi, je n'ai pas le droit de dire au vétérinaire, oui, votre client, un tel, est assuré. Tu sais, c'est quand même quelque chose de très, très, pas secret. Là, mais
c'est confidentiel, loi de la confidentialité des coordonnées. Tout à fait. Okay. Bon, ouais, dans le cas des études que j'ai dérapé un peu, là, c'est vraiment... il n'y avait pas de nom sur le patient, il n'y avait pas de numéro de téléphone dans le dossier non plus, c'était vraiment juste la race, puis ça ne permettait pas d'identifier les animaux.
Non, c'est ça.
Ben voilà, voilà. Mais revenons aux assurances, mettons comment ça marche. Là, on a identifié plus jeune, mieux c'est. Puis on a aussi parlé de, bon, avec les races, il faut avoir différents prix ou différentes, parce qu'il y a des risques différents. Mais peux-tu nous donner une idée de combien ça pourrait coûter, mettons, pour un chat, pour un petit chien, moyen chien, gros chien? À quoi on peut s'attendre en fonction de qu'est-ce qu'on veut comme couverture, mettons?
Bien, tu sais, si on veut une couverture minime, là, qui est environ 1 000 accident maladie, tu sais, un chat, là, je pourrais dire environ 20-25 par mois. Encore là, grosso modo, tu sais, c'est vraiment des chiffres grosso modo, là, ça se peut
que c'est quand même, là.
Tu aies un soin si ça coûte un peu plus cher, là. Mm-hmm. Fait que oui, c'est ça, c'est plus abordable que qu'est-ce qu'on pense. Si tu veux avoir quelque chose d'illimité avec quelque chose de super préventif, curatif, ben là, ça peut monter 80-90 par mois. Okay. Puis un chien, c'est vraiment extrêmement difficile parce que là, les races sont tellement...
ouais.
Fait que je dis comme 35 jusqu'à 200 par mois. Là.
Ouais, c'est un gros méga Saint-Bernard de 200 livres que tes antibiotiques ils vont te coûter 400 pour 2 semaines.
Non, mais c'est ça. On en parle rarement, là, mais un petit chien, les antibiotiques pour un chien, mettons qu'on dit 20 là.
Ouais.
Et pour un
chien, 400, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Un Irish Wolfhound, un Saint-Bernard, ça va au poids, là, les amis. Ouais.
Donc, parce que comparativement à l'humain, là, c'est pas un humain, c'est comme une dose, peu importe.
Tu ouais, c'est ça. Une pilule pour un humain adulte.
Exactement.
C'est des microgrammes par kilo, les dosages, en règle générale. Donc, c'est sûr que ça augmente votre bill. T'sais, moi, j'ai un petit chien pour plusieurs raisons. Ça coûte moins cher de nourriture, ça coûte moins cher de médicaments s'il arrive quelque chose. Puis s'il se fait mal, ben, je suis capable de le prendre en dessous de mon bras puis de sortir du bois.
Oui, c'est ça!
Mais il faut un budget dentisterie, par contre.
Oui, il faut un budget dentisterie nécessairement parce que des petites bouches, ça fait plus de tartre. Ouais, voilà. Il y a des pour et des contre.
Exact. Mais oui, vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé.
Ben ouais, c'est ça, mais dans la même lignée de penser sur la tarification, quand tu dis les soins préventifs, là, dans le fond, on parle vaccin, détartrage, de quoi on parle?
Préventif, ça va vraiment tout ce qui est recommandé de routine lors de l'examen annuel, je pourrais dire comme ça. Donc, un bilan sanguin, pas parce que ton animal est malade, vraiment préventif, ton animal est gériatrique, puis je veux être sûr que son foie à sérin, ça fonctionne encore bien. Ta prise de sang pour l'été, là, ton Snap 4DX pour vérifier les puces, les vers du cœur, tout ça. Ton médicament préventif pour l'été, les puces, les tiques, les vers du cœur, c'est pas mal ça, là, je dirais.
Mais c'est déjà beaucoup, ça.
C'est énorme. Oui. C'est sûr que c'est plafonné, là, c'est pas pour tout, là, donc il y a une limite. Puis les dentisteries, encore une fois, là, je parle pour Petticure, mais on a un budget de dentisterie dans chacun de nos plans, puis c'est renouvelable une fois par année. Puis ce qui est de le fun aussi, c'est que si le client ne veut pas faire de dentisterie cette année-là, ben, il peut utiliser aussi son montant de dentisterie pour tout ce qui est préventif, donc c'est-à-dire les produits d'entretien buccaux qui ont un numéro de DIN ou un numéro de produit naturel. Donc, ça va aider aussi à prévenir. Là.
Ben
on travaille vraiment, tu sais, pour que le client écoute le vétérinaire. On veut qu'il fasse ce que le vétérinaire recommande. Là.
Cool. C'est beau. C'est doux à mes oreilles. J'aime bien ça.
Ben, il y a de le fun, comme on a dit tantôt, ça revient à la base, c'est que on veut traiter l'animal, on veut donner les meilleurs soins possibles. Fait que si tu es couvert pour ça, ben oui, madame, je vais brosser les dents de mon chien avec ce produit-là que vous me recommandez parce que c'est ça le mieux, tu sais.
Ah, est-ce que tu veux nous expliquer comment ça fonctionne aussi après, par exemple, tu sais, moi, mon chien est assuré, je m'en vais à la clinique, puis parce que il s'est fait, je sais pas, piquer par une guêpe, puis là, il a enflé de la face, OK? Donc, moi, j'ai mon formulaire d'assurance ou c'est déjà payé ou explique-moi, c'est quoi la procédure par la suite?
Ben dans le fond, la première des choses que je dis tout le temps, c'est que le client doit appeler souvent pour faire préautoriser. Tu sais, si c'est urgent maintenant, on ne parle pas de le vétérinaire me remet un estimé parce que je voudrais faire ça éventuellement. Mm-hmm. Tu sais, on peut l'envoyer pour le faire préautoriser. Si c'est vraiment urgent, il y a un numéro où est-ce qu'on peut appeler pour savoir, voici ça, c'est mon numéro de client, regardez dans mon dossier avec le plan que j'ai, est-ce que ça va être couvert? Oui, non. Mm-hmm. Par la suite, le vétérinaire procède au traitement et malheureusement, ce n'est pas comme chez le dentiste où est-ce qu'on a encore le paiement direct.
Ah, okay.
Donc, le client doit débourser le montant et par la suite attendre que son assureur le rembourse. Dans des cas extrêmes où est-ce qu'on a justement un accident, on a des frais exorbitants, une facture à 5-6 000 $ puis le client n'a pas les sous pour payer tout de suite puis attendre son remboursement, il y a toujours des paiements directs qui peuvent être faits directement avec la compagnie. Donc, l'animal va quand même pouvoir bénéficier de ses soins et ne sera pas pénalisé.
Est-ce que ça va vite, ça? C'est parce que des fois, dans les centres d'urgence ou dans les cliniques qui vont hospitaliser l'animal, ben, des fois, ça donne aussi un petit délai. T'sais. Souvent, ce qu'on va demander, c'est un dépôt, dans le sens un paiement initial, parce qu'on s'entend qu'il y ait des frais à payer quand il va partir de l'hôpital. Là. Mm-hmm. Mais il va être gardé, mettons, 7 jours. Est-ce que le traitement par les compagnies d'assurance va se faire aussi rapidement que ça, par exemple?
Non, les délais, c'est quand même long parce qu'on a vu, avec la COVID, là, ça a explosé, là, vous l'avez vu dans la clinique vétérinaire, l'adoption des animaux, et au moins, les gens ont pris un bon réflexe, c'est de prendre plus d'assurance.
Cool!
Donc, ce qu'on voit, en ce moment, c'est vraiment une hausse. Donc, le délai pour traiter est un peu plus long. On parle d'environ une vingtaine, trentaine de jours pour recevoir nos sous.
OK, quand même.
Si on parle d'un paiement direct, là, comme on a dit, en cas de vraiment, c'est super important, là. Quand on appelle, généralement, on se fait répondre assez rapidement pour savoir, tu sais, oui ou non, est-ce que ça va être couvert, est-ce que c'est correct, on signe les papiers, puis on peut débuter le traitement.
OK. Cool. Ah, c'est quand même vraiment bien. Honnêtement, ben, c'est sûr que le délai, ça peut être dérangeant pour certaines personnes, mais justement, je pense que c'est la belle surprise, victime du succès de « Oh mon Dieu, il y a vraiment plus de monde qui ont pris des assurances. » Puis là, ben, j'imagine qu'il va y avoir de l'embauche, il va y avoir plus de services qui vont compenser, mais c'est ça, ça prend du temps s'adapter à cette...
Oui, on pédale beaucoup, puis tu sais, le but aussi, c'est d'offrir un super service aussi parce que, tu sais, quand on a une assurance, on veut là, quand même être soutenu. Là. Donc, là, pour l'instant, on focus beaucoup sur en parler parce qu'on veut que de plus en plus les gens prennent des assurances. Mais oui, à l'autre bout, on engage pour traiter plus vite.
Cool.
Puis, de toute façon, tu sais, pour les soins urgents et tout, selon où est-ce qu'on est au Québec, je pense qu'il y a quand même des façons de financer. Dépendamment des établissements, de financer une partie. T'sais, avant, il y avait accordé. Avant, je pense que maintenant, accordé, ça ne fonctionne plus.
Non.
Que, bref, il y a des façons aussi de pallier le manque d'argent maintenant pour attendre qu'il arrive par la suite pour les assurances.
Oui, ouais,
il y a certaines cliniques qui ont des fondations par eux-mêmes aussi. Ça, c'est super intéressant aussi. Mais c'est ça, c'est pas tous les établissements. Puis des fois, ils ont certains critères. Fait qu'est-ce que tu vas être accepté ou pas accepté? C'est sûr que c'est peut-être un peu plus un gambling à ce moment-là. Mais oui, ça peut être une autre belle façon, des fois, si on n'a pas les sous, d'arriver à traiter notre animal.
Dans un cas d'urgence, on parle. Là, parce qu'en général, si je comprends bien, si j'ai quelque chose de planifié comme une dentisterie ou quelque chose, une prise de sang annuelle, il y a moyen de le faire quand même approuver, puis ça va comme faciliter le traitement.
Bien, c'est que le client va être sûr à 100% parce que des fois, tu sais, il y a tellement de détails dans une police d'assurance que même le client qui détient sa police d'assurance, des fois, est mêlé, il va dire « Non, ça va-tu être couvert, ça, ou ça ne sera pas couvert? » Fait que tu envoies ton estimé, puis là, tu vas tout de suite le savoir. Oui, voilà la partie qui va être couverte. Oui, ça va l'être. Non, ça ne sera pas. Fait qu'à ce moment-là, c'est bien plus facile de planifier ton budget par la suite puis dire « Oui, regarde, je vais faire ma dentisterie. Oui, je vais prendre les radios en plus. Puis oui, je vais prendre, tu sais, tout ce qui est mieux parce que j'ai tant qu'il va être couvert. »
Ah, c'est super. À part ça, est-ce que tu avais, Christelle, un message que tu voulais partager aux gens vraiment ou remettre de l'emphase parmi tout ce qu'on a vu, qu'on a discuté aujourd'hui ensemble?
Bien, pour les cliniques vétérinaires, pour les techniciens, les vétérinaires, tous les gens qui travaillent dans des cliniques, mon seul conseil, c'est un peu d'en parler et de ne pas avoir peur d'en parler. Vous n'êtes pas là pour vendre des assurances. Le but, c'est pas de devenir des spécialistes des assurances. C'est vraiment juste de faire connaître ça à vos clients. Ayez pas peur, comme je dis. T'sais, souvent, on ne veut pas en parler parce que là, on est comme « Ah, le client va me poser des questions » puis tout ça. Si vous ne savez pas, vous leur dites « Allez voir sur les sites Internet. » Moi, au moins, vous vous êtes fait un point d'honneur de leur dire que ça existe. Puis, dans mes rêves les plus fous, là, toutes les cliniques établiraient ça dans leur TPR de chiot-chaton. Ça devrait être aussi important que de savoir qu'est-ce qu'ils mangent, est-ce qu'ils toussent, est-ce qu'ils sont en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler des vaccins et des vermifuges parce que on s'entend que si ton animal part et tu n'as pas parlé de ça, c'est comme la base, là, ouais. Mais les assurances devraient aussi faire partie de la base. Là.
Super. Puis pour le public?
Pour le public, ben j'irais plus avec le fait que quand votre vétérinaire vous en parle ou votre technicien ou peu importe, ben faites pas juste « Ah oui, je vais regarder ça » puis l'oublier. Là. Donc, ouais. Prenez une petite soirée où vous êtes tranquille, vous avez le temps. Le temps, justement, de faire le tour des assurances, de faire des soumissions, puis de vous asseoir si vous êtes deux ou trois personnes qui ont l'animal, à savoir est-ce que ça vous intéresse vraiment, est-ce que vous avez le budget, c'est quoi votre budget, qu'est-ce que vous pensez faire avec votre animal, parce que, tu sais, toi, Laurence, t'es en onco, c'est pas tout le monde qui, si leur animal a le cancer, vont aller faire les soins, les traitements, puis tout ça, c'est pas tout le monde qui sont prêts à pousser jusque-là, donc si on n'est pas des gens qui veulent aller jusqu'à ce point-là, bien peut-être qu'un petit plan, un ou deux de base, ça va être super correct. Là. Comme ça, s'il arrive un petit accident, bien au moins, on a les sous pour pouvoir donner un traitement qui est correct à notre animal sans y aller jusqu'au centre de référence et dépenser des 10 000 $
Ouais. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il faut prévoir. T'sais.
Prévoir.
Il faut prévoir, puis même possiblement avant l'adoption de l'animal. T'sais, puis d'aller chercher la race, elle a quoi? Est-ce que c'est une race qui risque de me coûter cher? Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Puis si c'est le bon choix, ben d'aller vraiment pour une assurance pour se dire « Ah, c'est vrai, les cavaliers King Charles, ils ont tous des problèmes cardiaques. » T'sais, bref, de réfléchir à ça en amont pour faire des choix un petit peu plus judicieux côté assurance puis type d'animal aussi. Là, parce qu'on a parlé de chien, j'ai l'impression que c'est principalement ça, les assurances.
Malheureusement, ça... Il y avait des compagnies qui faisaient des chevaux. Je ne sais pas s'il y en a qui les font encore. J'oserais pas m'aventurer là-dessus. Mais clairement, aucun pour exotique, oiseaux, lapins, blablabla. Il y a trop de races sous races. C'est tellement compliqué. Puis on a déjà juste 2 à 3 % des gens pour les chats et les chiens qui ont des assurances. Alors, tu sais, quand on parle, mettons, d'une souris ou d'un rat, où est-ce que la plupart des gens ne vont même pas investir pour un examen, ça deviendrait complètement utopique de penser que ça pourrait se faire. Peut-être un jour, mais en ce moment, non. Oui, Laurence, tout à fait. Là, si tous les gens pensaient comme ça, même, comme tu as dit, pour l'adoption de leur animal, là, on aurait tellement moins d'abandon à cause du « Ah, je savais pas que c'était aussi actif » ou « Je savais pas que ça deviendrait gros comme ça ».
C'est sûr.
Ça serait super, en fait.
On va souhaiter ça. Nous, on est utopique, donc on va souhaiter ça à tout le monde.
Moi, ça va sur la race et sur les assurances.
Hey, merci tellement, Christelle. C'était un plaisir de parler avec toi. Puis j'ai appris un paquet d'affaires que je savais pas jusqu'où ça pouvait aller, les assurances. Là, fait que... Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Ben tant mieux. Écoute, si toi, ça t'en a appris, puis tout le monde qui va écouter, ça vous a juste donné l'idée d'aller voir plus loin. C'était un peu ça que je voulais faire aujourd'hui, puis d'arrêter que vous ayez peur un peu de cette bébite-là.
Parfait. Fait que, ben, sur ce, bonne journée tout le monde. Ça sera pour une prochaine fois pour un autre sujet. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Puis si vous avez des questions pour Christelle, à la limite, ça va me faire plaisir soit de te les faire parvenir par la suite ou de mettre les coordonnées à la limite. Là, si toi,
tu que tu pas. Répondes dans les commentaires Facebook, genre. Peu importe. On va trouver une façon.
Yes!
Ça va me faire plaisir.
Fait que, à une prochaine fois tout le monde.
À bientôt!
Bye. Merci! Bye.